Chapitre 26e, pêche singulière, départ, un combat meurtrier, ruse d'un corsaire, retour à Saint-Denis. La pêche aux souffleurs a lieu à Zanzibar ordinairement deux fois par an. Tous les 6 mois, des bancs innombrables de ces cétacés longent, au changement de la mousson, le canal de cette île, tantôt se dirigeant du nord au sud et tantôt du sud au nord. Lorsque je rejoignis le capitaine Cousinry, je le trouvais en conversation amicale avec le terrible Yakout qui, couché dans une litière et entouré de son grotesque état-major, de ses chiens favoris, assistait à cette fête. Je serrai cordialement la main que me présenta Cousinry, puis, après l'avoir mis au courant, un peu de mots de nos aventures, c'est-à-dire de la mort tragique de Petit-Jean et du retour de Ducasse, je reportai toute mon attention sur le spectacle pittoresque et animé de la pêche qui était alors dans toute sa splendeur. Une semaine plus tard, les avaries du tigre du Bengale étant complètement réparées, nous appareillâmes et reprîmes la mer. « J'espère que tu dois être content, mon cher ami, » me dit le capitaine Cousinry lorsque l'île de Zanzibar n'apparut plus dans le lointain à nos regards que comme un nuage flottant. « Te voilà enfin sorti sain et sauf, avec ta tête sur les épaules, et des épreuves du naufrage et des griffes de Yakout, et toujours lieutenant, par parenthèse, car il paraît que tu es destiné à l'être toute ta vie. » Mais qu'un riche trois-mâts anglais se trouve par bonheur à la portée de nos caronades, et tu rattraperas en quelques heures tout le temps que tu as perdu. Je te fais capitaine de la prise. « Ma foi, capitaine, lui répondis-je, je ne crois pas m'être, depuis que je navigue, plus mal comporté qu'un autre en face du danger. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais comment cela se fait, mais je n'aspire plus qu'après le repos, et je n'éprouve nulle envie de me retrouver en présence de l'anglais. » « Oui, je conçois, tu es fatigué. Bon, ne fais pas attention à cela. L'appétit vient en mangeant. Je te réponds que si nous en venons aux mains, à la première bordée, tu retrouveras toute ta première ardeur. » « Je ferai, certes, mon devoir, capitaine. Mais voyez-vous, j'ai besoin d'aller me reposer un peu en France, auprès de ma famille. Il est un temps pour tout, et les meilleures choses, quand on en abuse, finissent par n'avoir plus pour nous d'attrait. » L'odeur de la poudre a perdu pour moi le parfum enivrant que je lui trouvais jadis. « Veux-tu te taire, Blanc-Bec ? » s'écria Cousinry en riant. « Tu parles de te reposer, et c'est à peine si tu es sorti de tes langes. Quand tu auras fait 5 ou 6 fois le tour du monde et bivouaqué pendant quelques années dans les mers glaciales, alors oui, il te sera permis de songer. « Une voile ! » cria en ce moment la vigie. Cette annonce, comme on le conçoit, mit fin à ma conversation avec le capitaine. « Comment court-il ? » demanda vivement Cousinry. « Il gouverne le bâbord amure pour nous accoster au vent, » répondit un officier du corsaire, qui s'était empressé, à la nouvelle de l'approche d'un navire, de monter sur les barres du petit perroquet. « Quelle est sa voilure ? Paraît-il gros ? Il est sous ses huniers et ses basses voiles et largue ses perroquets. Ce doit être une forte corvette. « Parbleu ! » me dit en riant Cousinry. « Voilà qui arrive fort mal à propos pour toi, Garneret. » Ça sent plus la poudre que ça ne promet de repos. » Je ne rapporterai pas ici les manœuvres que fit exécuter Cousinry, car je n'ai déjà que trop abusé, emporté par mes souvenirs, de ces sortes de descriptions. Je me contenterai seulement de mentionner qu'une heure plus tard, il était de toute évidence pour nous que le navire qui nous poursuivait non seulement nous était de beaucoup supérieur sous le rapport de la force, mais encore aussi sous celui de la marche. Vers la fin de la journée, l'avance qu'il avait gagnée était considérable. Le lendemain matin, il n'était guère plus qu'à 2 portées de canon de nous. Notre branle-bas de combat terminé et prêt à tout événement, nous étions à déjeuner lorsque la brise tomba tout à fait. En 20 minutes de temps, la mer présenta une de ces apparences lourdes et huileuses qui annoncent ordinairement les grands calmes plats. « Voilà, nous dit Cousinry, un contre-temps pour l'anglais. Se savoir plus fort que nous, nous tenir presque à sa portée, et ne pouvoir commencer le combat, il doit être furieux. » Le capitaine, à cette idée, frottait joyeusement ses mains l'une contre l'autre, lorsque l'officier de Carl envoya avertir que 3 embarcations se détachaient de la corvette et se dirigeaient vers nous. « Ah, parbleu !» s'écria Cousinry en s'élançant sur le pont. « Voilà un rapport auquel je ne pouvais croire et qui cependant est vrai. Quoi ? Ces Anglais sont assez fous, assez... « Ma foi, je ne trouve pas de mots convenables pour caractériser cette absurdité. »« Ces Anglais, dis-je, sont assez insensés pour oser nous envoyer leurs embarcations. »« Oh là, Prennent-ils donc notre corsaire pour un navire marchand parce que nous l'avons un peu déguisé? Ou bien s'imaginent-ils que, parce qu'au premier souffle de la brise, ils sont sûrs de nous atteindre, nous sommes tellement effrayés d'avance de la perspective d'un combat avec eux, que nous nous laisserons tranquillement prendre pour l'éviter? Par Dieu, je veux leur donner une leçon, et la plus complète possible, afin qu'ils ne l'oublient pas de sitôt. » Le capitaine s'empresse alors de faire cacher nos hommes, de donner les ordres nécessaires pour faire, ce fut l'expression dont il se servit, une brillante réception aux Anglais. En effet, lorsque 10 minutes plus tard, les 3 embarcations ennemies ne furent plus qu'à 1/2 portée de fusil de nous, car elles s'avançaient avec une confiance pleine d'arrogance et qui prouvait combien elles s'attendaient peu à éprouver la moindre résistance de notre part, une véritable trompe de flammes et de fer partie de notre batterie les fit disparaître un moment à nos yeux. Lorsque quelques secondes après, la fumée se fut dissipée, un spectacle triste et affreux se présenta à nos regards. Sur les 3 embarcations, 2 avaient été coulées. Sur la mer, jonchée de débris humains, on ne devinait plus la place qu'elles occupaient naguère que par la vue de leur carcasse, par le sang qui l'atteignait. Quant au 3e canot, fortement avarié et menaçant à chaque instant de sombrer, il s'éloignait en toute hâte en se dirigeant vers la corvette anglaise. « Ne faudra-t-il pas, capitaine, sauver tous ces pauvres diables qui crient comme s'ils n'avaient pas assez de patriotisme pour boire un coup plutôt que de devoir la vie à la magnanimité des Français ?» demanda à Cousinry le second du tigre du Bengale. « Ah, mon Dieu, faites comme bon vous semblera, Bernard !» lui répondit Cousinry. « À vrai dire, pourtant, je crois que ce serait plus honnête de venir en aide à ces gueux-là. » Notre embarcation, aussitôt mise à la mer, ne tarda pas à se remplir de naufragés anglais. Plusieurs parmi eux étaient grièvement blessés. « Tiens, parbleu !» s'écria le capitaine en les voyant mettre le pied sur le pont. « Une bonne action porte toujours en elle sa récompense. Voici que, grâce à cette provision de gredin, je viens de trouver le moyen d'échapper à la corvette. « Comment cela, capitaine ?» demanda le second. « Vous verrez, Bernard, c'est simple comme bonjour. »« Qu'est-ce que tu veux, toi ?» ajouta Cousinry en se retournant vers un matelot anglais qui lui adressait la parole. « Du linge pour te changer ? Eh bien, tu ne manques pas de toupet, l'ami. On te sauve et tu n'es pas content. Il faut encore qu'on t'habille par-dessus le marché. Allons, tais-toi. » Cousinry était d'un caractère un peu brusque, mais nullement méchant. Aussi, la façon dont il répondit au malheureux prisonnier anglais me surprit-elle. « Mais, capitaine, lui dis-je, ce ne sont pas certes ces pauvres diables qui ont demandé que vous couliez leurs embarcations. Ils sont donc fort excusables de désirer changer de vêtements, car il y a vraiment danger pour leur santé à rester trempés ainsi. Oh, ne crains rien, Louis, je ne leur donnerai pas le temps de se sécher. » « Quoi, capitaine, vous songeriez, tu m'ennuies à la fin avec toutes tes questions ?» s'écria Cousinry en m'interrompant. « Je ne passe pas pour être ni un tigre ni un imbécile, laisse-moi donc faire à ma guise. » « Vous êtes le maître, capitaine. Permettez-moi seulement une dernière observation. C'est qu'il est incontestable, d'après l'état de l'atmosphère, que le calme qui règne en ce moment cessera bientôt, ne le croyez-vous pas ?»« Oui, je le crois, mais où veux-tu en venir ?»« À cette conclusion fort simple, capitaine, qu'une fois que la brise se lèvera, la corvette anglaise nous rejoindra sans peine et nous forcera au combat. » »« Ceci n'est pas bien sûr, mais en supposant toutefois que cette prévision doive se réaliser, quelle conclusion en tires-tu ? Cette conclusion assez logique, que si nous sommes vaincus, comme la disproportion de force qui existe entre l'ennemi et nous permet, hélas, de le supposer, les Anglais nous feront chèrement payer alors, je ne veux pas dire la cruauté, mais au moins le peu de complaisance que nous aurons montré envers nos prisonniers. Mon pauvre ami, tu n'y es pas du tout. La brise va s'élever, j'en conviens. Mais ce que je puis t'assurer, c'est que la corvette ne nous rejoindra pas, qu'il n'y aura pas, par conséquent, de combat, et que nous brûlerons la politesse à l'anglais. Tu as beau ouvrir de grands yeux étonnés, tout se passera comme je te le prédis. » Ne pouvant pousser plus loin la conversation sans manquer au respect que je devais à l'autorité de Cousinry, je m'éloignais, sans lui répondre, mais fort inquiet. L'équipage n'était pas non plus au reste, dans une parfaite sécurité d'esprit, loin de là. Les yeux des matelots tournés vers la corvette et le silence qui régnait sur le pont du Tigre du Bengale étaient des symptômes évidents de la préoccupation générale qui régnait à notre bord. Cette préoccupation, lorsque, peu après ma conversation avec Cousinry, la brise, comme nous nous y attendions, se leva, cette préoccupation, dis-je, se manifesta par d'énergiques jurons. Nous nous sentions perdus. Ah ah! S'écria le capitaine en voyant la corvette se couvrir de toile. Voilà les godems bien contents. Rira bien qui rira le dernier. Cousinerie ordonna aussitôt de prendre chasse, puis, la manœuvre exécutée, il fit apporter sur le pont une douzaine de grandes barriques vides. Défoncez-moi ces barriques par un bout, faites deux trous dans le fond à l'autre bout, dit-il au charpentier, de façon que l'on puisse y passer une corde de moyenne grosseur. Bien, c'est cela. À présent, amarrez-moi au bout de cette corde, à la distance à peu près d'une demi-brasse, trois boulets de 12, de façon que cette barrique mise à la mer conserve son équilibre et se tienne debout sans chavirer. Pendant que Cousinerie donnait ses ordres, auxquels nous ne comprenions rien et dont nous ne pouvions concevoir l'utilité, la corvette, nous gagnant main sur main, s'était rapprochée de nous jusqu'à portée et demie de canon. Bientôt un éclair brilla le long de ses sabords et un boulet vint mourir en ricochant sur la surface de la mer à deux encablures au plus de notre arrière. « Allons, voici le moment, » dit Cousinerie en riant. « Embarquez, les Anglais !»« Quoi ? » reprit-il en voyant mon étonnement. « Vous ne comprenez pas cette manœuvre. Elle est cependant bien simple. Fourrez-moi deux prisonniers dans une barrique, puis affalez la barrique à l'eau. C'est simple comme bonjour. » Un éclat de rire homérique, qui s'éleva de l'avant à l'arrière du tigre du Bengale, prouva que nous devinions enfin l'intention du capitaine et que nous ne craignions plus la poursuite de la corvette. En moins d'une minute, deux Anglais furent enfoncés dans une barrique et quelques secondes plus tard, cette embarcation d'une nouvelle espèce flottait immobile le long de notre bord et s'éloignait derrière nous. Cousinerie, mue par un sentiment de générosité extrême, allait faire remettre aux Anglais ainsi embarqués une bouteille de vin et un jeu de cartes. « Buvez, jouez, chantez, amusez-vous, mes amis, » leur dit-il. Si cela peut même vous être agréable de m'accabler d'imprécations et de sottises, ne vous gênez pas. Vous me rendez un trop grand service pour que je ne me montre pas plein de soins et de tendresse pour vous. » À mesure que le sillage rapide du tigre du Bengale nous éloignait de la barrique, nous voyions et entendions les deux Anglais effrayés de leur position, que rendait plus critique encore la présence de deux gros requins qui flânaient à quelques brasses d'eux en quête d'un repas, faire des signaux à la corvette et pousser des cris perçants qui arrivaient jusqu'à nous. Déjà, on n'apercevait presque plus les deux infortunés lorsque nous vîmes la corvette mettre en panne et envoyer un canot à leur secours. « Cela dit, » dit Cousinerie en se frottant joyeusement les mains, « voilà un quart d'heure de perdu. Avant que ces godems aient de nouveau orienté leur voile et se soient remis à notre poursuite, nous aurons pris de l'avance. » Je ne mentionnerai pas un par un les embarquements successifs que nous fîmes de tous les prisonniers anglais, pour faire perdre du terrain à la corvette, je constaterai seulement que vers la tombée de la nuit, le navire ennemi ne nous apparaissait plus à l'horizon que comme un petit nuage de forme indécise. Il restait encore quatre prisonniers. Pendant la nuit, qui pour surcroît de bonheur fut fort obscure, nous fîmes fausse route afin d'échapper complètement aux croiseurs, et cette manœuvre nous réussit à merveille. Le lendemain, au lever du soleil, nous n'aperçûmes plus de toutes parts jusqu'à l'horizon que l'immensité solitaire de l'océan. Après 55 jours de mer, laps de temps pendant lequel nous eûmes le plaisir de capturer un autre navire anglais richement chargé, ce qui nous promettait d'assez belles parts de prise, nous mouillâmes enfin, malgré la surveillance des Anglais, devant Saint-Denis, île Bourbon, que l'on juge de ma joie. Pendant 2 mois que je restais à terre, je ne songeais qu'à me dédommager des incroyables souffrances que j'avais subies. Je mis même tant de zèle et de conscience dans l'accomplissement de ce projet que je ne tardais pas à entamer fortement mes parts de prise que j'avais vendues à l'avance à un énorme rabais. Comballot, alors tout à fait remis de sa blessure à la jambe, m'aida dans cette tâche avec un dévouement, une bonne volonté et une intelligence dont je lui suis encore reconnaissant et que je n'oublierai jamais. Quant à Fignolet, 15 jours après son débarquement, il entra en qualité d'aide-cuisinier en second dans le meilleur restaurant de la ville de Saint-Denis. M. Liard, l'auteur de la catastrophe de la Doris, s'embarqua je ne sais sur quel navire. 20 ans plus tard, je l'ai revu à Honfleur. Il était alors dans une triste position et de santé et de fortune. On m'apprit sa mort quelques années après.